Yes, merci de vos applaudissements, cher public.
C'est que c'était des applaudissements enregistrés.
Vous, comment? Vous êtes sur le 102.2, c'est l'heure d'échec et lutamat. Ah, attendez, j'entends plus rien. Oh. J'ai un petit problème de casque. Bon, vous m'entendez, vous?
On t'entend. Ouais.
On t'entend.
Ah, ok, bah, y a que moi qui m'entends pas. C'est pas grave, je vais la faire à l'aveugle. Donc voilà, il est 17h07, on est un petit peu à la bourre, c'est l'heure de l'émission Échec et lutamat. Et une émission. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé le problème. Une émission spéciale dédiée à la saga du Parrain de Francis Ford Coppola. Les trois films, une trilogie. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons Yuri.
Salut.
Salut Yuri.
Bonjour.
Ah, je t'entends bien, ça va mieux. Et nous avions Monsieur Nagoya.
Bonjour.
Ou devrais-je dire Don Nagoya.
Don Nagoya, s'il te plaît. Un peu de respect.
Un peu de... C'est vrai que quand on est dans le milieu...
Le respect que tu me dois.
Tu vas me faire une offre que je ne peux pas refuser, c'est ça.
On va voir.
Donc voilà, chers auditeurs, on avait envie voilà, de faire une émission. On a repris l'émission depuis septembre et on avait envie de l'axer assez sur le cinéma, que ce soit des films récents ou des films qui ont été marquants. Et aujourd'hui, on s'attaque au Parrain de Coppola. Et c'est pas rien, il y a beaucoup de choses à dire.
Oui, rien que pour préparer l'émission, ça faisait pas loin de 10 heures de film à regarder dans la semaine.
4 heures de discussion.
Ouais, voilà.
Donc tout ça va tenir en une heure, quoi. On va essayer.
On va même moins d'une heure parce qu'on a commencé à la bourre. Et ça, je considère que c'est de ma faute. Voilà. Donc le Parrain, on va pas présenter. Enfin, je pense que les gens connaissent le Parrain de Francis Ford Coppola avec le premier qui est sorti en 72 et qui a été un succès phénoménal et qui a été l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma.
Si, justement, on va en parler du.
Oui, ça, on va en parler,
on
mais je veux
en
dire.
Parler du contexte.
Ce sera ton rôle, d'ailleurs. Le Parrain 2, sorti 2 ans après, qui a fait un carton total aussi, qui est une merveille. Et le Parrain 3, sorti en 90, celui-ci, un peu en marge, mais dans la continuité. Et justement, notre but dans cette émission, donc oui, on va aborder la genèse du projet.
Beaucoup trop sous-estimé, le Parrain 3. Il reste tout à fait excellent et tout à fait dans l'esprit des deux premiers.
Ouais, à fond. Et donc on va aborder la genèse du projet, qui est assez particulière, de la part de Coppola aussi, parce qu'on a un peu l'habitude de voir Coppola s'accrocher à ses projets, y aller à fond, et en être souvent l'initiateur ou l'instigateur, alors que là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et par la suite, on abordera les grands thèmes du film, on reviendra dessus en cours de route. Donc Yuri, la genèse du Parrain, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, comment ce projet est né? À l'origine, il y a Mario Puzo. Mario Puzo, donc grand romancier américain d'origine italienne, qui donc écrit le roman Le Parrain. Donc là, on est dans les années 60. Ce roman sera un succès, un gros succès d'édition. La première édition au format sera vendu, je crois, à 500 000 exemplaires aux États-Unis, et ensuite plusieurs millions pour le format poche. Ce qui se passe, c'est que la Paramount, très intéressée par le roman et par le projet, cherche à l'adapter. La Paramount va chercher un réalisateur pour adapter. La Paramount rachète les droits et cherche un réalisateur. Il y a au moins 4 ou 5 réalisateurs qui seront pressentis à la fin des années 60 pour s'occuper de ce projet. À ce moment-là, donc le cinéma est en crise, l'arrivée de la télévision, etc. Il y a eu plusieurs projets à Hollywood de films de gangsters qui n'ont pas très bien marché, et la Paramount propose à Coppola, la Paramount cherche un Italo-américain pour réaliser ce projet et lui insuffler peut-être la flamme qui manquait à d'autres films du genre jusque-là. Et va chercher Coppola, qui est à cette époque-là, Coppola, il est dans le creux de la vague.
C'est vrai que le film de gangster n'était pas du tout à la mode à ce moment-là.
Non, pas du tout.
Le dernier grand succès, c'était peut-être Bonnie and Clyde, en fait, marquant.
Mmh, certainement.
Du coup, il cherchait peut-être à faire quelque chose de plus authentique, en cherchant un Italo-américain.
Ah, complètement. Il cherchait à insuffler quelque chose de neuf, quelque chose de plus authentique, de plus réaliste.
Plus profond, quoi, ouais.
On est, la nouvelle vague française, on est encore en plein dedans, donc il y a une certaine logique là-dedans. N'empêche que le Parrain, effectivement, à l'origine, c'est un vrai projet de studio, c'est un vrai projet de... C'est pas du tout un film d'auteur, c'est pas du tout un projet de Coppola. Coppola se retrouve là-dessus, après après que le projet soit passé dans les mains de plusieurs personnes. Et Coppola va récupérer le parrain. Il va commencer à travailler avec Mario Puzo. Ils vont travailler ensemble.
Et tu lui disais justement qu'il était un peu dans le creux de la vague à ce moment-là.
Oui, il était dans le creux de la vague. Il venait de coproduire le THX 1138 de George Lucas.
Ils avaient monté une société de production ensemble.
Qui
décollait pas.
Le THX, voilà, ça a pas pris, ça a pas marché. Lucas devra attendre American Graffiti pour avoir son premier vrai succès au cinéma. Et donc Coppola n'est pas en mesure de négocier quoi que ce soit au début. Il se retrouve sur ce projet et décide de le prendre en main avec l'aide de Mario Puzo. Ce qui va se passer, c'est que donc ça va être un calvaire pour Coppola, toute la production du premier film. Donc il sera sur le projet plusieurs mois à l'avance, il participe au casting, il va essayer d'imposer ses choix, mais la production va lui mettre des bâtons dans les roues. Coppola cherche déjà première chose, il a envie de Brando dans le rôle de Vito Corleone. La production ne veut pas de Brando. Brando a déjà la réputation d'un mec ingérable à Hollywood. Donc Coppola va devoir insister énormément, il va finir par réussir à négocier avec la production. La production va lui dire ok, mais tu fais passer un essai à Brando, on verra ce que ça donne. Coppola est obligé de mentir à Brando, lui dit est-ce que tu peux venir faire un essai maquillage, costume, voilà, alors qu'en fait c'est un essai à montrer au producteur. Brando sera excellent évidemment dans cet essai maquillage. C'est là qu'il trouvera l'idée de se foutre des Kleenex dans les joues
pour avoir le côté gueule de bulldog.
Ouais, le côté bulldog, voilà. La même chose va se passer avec Al Pacino. Al Pacino est un inconnu notoire.
Il a fait un film avant, mais il a convaincu Coppola des petits rôles.
Il a fait des petits rôles au ciné. Sinon, il joue sur Broadway, Al Pacino. Et Coppola va devoir se battre énormément pour garder Al Pacino sur le projet, convaincre. Pareil, le rôle d'Al Pacino, il y a une dizaine de comédiens. Enfin, il y a 4000 comédiens qui vont passer le casting. Mais parmi ces 4000, un paquet de mecs ultra connus de l'époque. Il y a Martin Sheen qui va faire le casting. Il y a Robert Redford, etc. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que tout le long du tournage, Coppola va être dans un stress intense, absolu et permanent. C'est-à-dire que la production cherche à l'évincer. La production, dès le début du tournage, va mettre en place va lui mettre dans les pattes un second réalisateur qui sera prêt à récupérer le projet à la moindre faute de Coppola.
Et Coppola qui a une grande gueule aussi et qui impose ce qu'il veut, parce qu'il me semble que les studios voulaient transposer l'action dans les années 70 pour ne pas avoir à faire de décors d'époque. Et Coppola a insisté, non, je veux que ça se passe exactement à tel moment et on fera les décors. Pour ce film-là, il a eu un budget de $6 millions.
$6 millions, ouais.
Ouais. Ce qui est bien, mais pas non plus.
Ça le rapproche un peu plus, peut-être ça explique son amitié avec George Lucas, du coup, enfin, cette espèce de combat avec les producteurs.
Complètement.
Ça rappelle vraiment l'histoire de Star Wars.
Complètement, ils sont tous potes, de toute façon, ces mecs-là.
Ouais, c'est la même bande.
Et donc, voilà, le tournage du 1 va se passer dans un stress terrible pour Coppola.
Qui va rien lâcher.
Qui va rien lâcher, qui va continuer à bosser, qui va continuer à shooter, à faire les images, à avancer. Au final, il finira même le tournage en avance sur ce qui était prévu.
Ouais, alors il avait droit à 83 jours.
Et il a fini en 76 ou 77 jours. Voilà, ce qui est assez rare dans le milieu du cinéma, être capable comme
et pour Coppola aussi.
Oui, pour Coppola en plus, et puis pour un projet comme le parrain.
Énorme.
Et donc voilà, ce qui se passera ensuite, évidemment, le processus sera très différent pour les suites, puisqu'on sait le succès qu'a eu le parrain, qui est classé régulièrement dans les classements des meilleurs films de tous les temps. On retrouve le parrain systématiquement dans les top 10
ou les
top
3.
Parrain et 2.
C'est exceptionnel pour.
Mais donc, oui. Puis même le Parrain 2, voilà. Donc 2 ans après, il lance le tournage du Parrain 2. Le Parrain 2, c'est considéré comme l'une des suites les plus réussies de toute l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que le 1 est déjà considéré comme un chef-d'œuvre. Et avec le 2, ils ont réussi à surpasser ce chef-d'œuvre, à créer une suite. Donc, évidemment, tout le monde se souvient de ces scènes, de ce montage parallèle entre les scènes, le jeune Vito Corleone et l'ascension de Michael Corleone, les deux ascensions du père et du fils mises en parallèle, qui est sensationnel, qui est magnifique.
Et justement, voilà, un petit détail, voilà, par rapport à la chronologie du roman, Et par rapport à la chronologie des deux premiers films.
Exact.
Parce que le premier film, voilà, peut-être pour les auditeurs qui n'ont plus trop le parrain en tête, qui l'ont pas vu depuis un bout de temps, cette saga, ou même qui ne le connaissent pas, dans un premier film, le parrain qui raconte l'histoire de la saga Corleone, donc une fille, une famille...
Qui démarre du mariage de Connie.
Italo-américaine.
La fille du parrain.
Mafieuse, la famille... Alors justement, on va faire une petite précision pour les auditeurs. Quand on parle de la famille, on parle de vraiment la famille, les frères, les sœurs, le père, la mère, tout ça. Et quand on parle de la famille business, on parle de la mafia. Parce que, comme tu le soulignais quand on a préparé l'émission, c'est essentiellement, et comme tu l'as dit au début, c'est essentiellement un film qui traite de la famille, du thème de la famille.
C'est le plus grand film de famille de tous les temps.
Ouais. Et du coup, il a une signification beaucoup plus large que ce qu'on connaît de la famille, quoi. Puisque, ouais. Voilà, il y a le côté affaire en plus.
Et il y a justement ce parallèle entre, justement, la famille, et on voit comment les personnages se retrouvent à devoir gérer les deux, et parfois de façon maladroite, bien sur un bord, ou mal sur l'autre, ou l'inverse, ou bien sur tout, et enfin voilà. C'est aussi ça qui est passionnant dans cette saga, quoi.
Et donc pour terminer un peu sur le contexte, voilà, le Parrain 2 se passera dans des conditions bien meilleures, c'est-à-dire que le film a eu le succès qu'on connaît, le premier Parrain. Derrière, le studio va complètement faire confiance à Coppola, qui aura une vraie liberté de travail ensuite sur les deux suites.
Un budget quasiment le triple du premier, parce que sur le premier, il avait 6 millions de dollars de budget, sur le deuxième, il aura 15 millions de dollars.
Non, c'est...
Ouais, et puis du stress en moins, quoi, du coup.
Et du stress en moins.
S'il est pas sur la sellette.
Ah ouais, un contrôle artistique,
Ceci dit, même si sur le premier film, il était complètement sur un siège éjectable et, il s'agissait complètement d'une commande de studio, il a quand même réussi à intégrer, déjà dans le premier film, des thèmes très personnels. Qui dans lequel il ira évidemment encore plus loin sur ses suites. Coppola a toujours dit que l'évolution de Michael Corleone correspondait aussi à la sienne. C'est-à-dire avec le troisième film aussi dans les années 90.
On reviendra dessus avec le parallèle et justement la notion de famille et le fait que Coppola est très famille et qu'il inclut sa famille dans le projet.
Oui, toute sa famille travaille sur le projet. Pour en citer quelques-uns, Talia Asher qui joue donc Connie Corleone. Talia Asher est sa sœur,
une des filles de Vito Corleone et la sœur de Michael Corleone. Et voilà.
Talia Asher est sa sœur. On a Carmine Coppola, son père qui travaille sur les musiques, toutes les musiques.
D'ailleurs, la musique qu'on a entendue au début de l'émission, c'était une musique du père de Francis Ford Coppola, Carmine Coppola. Ouais.
Et sa fille, Sofia Coppola, qu'on connaît maintenant en tant que réalisatrice, joue aussi dans la trilogie et joue un des rôles principaux du troisième film.
Puis le côté famille, donc justement, il met sa famille dans le tournage, et puis en même temps, tous les gens au tournage, il en fait sa famille, puisque tu nous racontais qu'il organisait des repas en dehors du tournage avec toute l'équipe, et que t'expliquais qu'il
jouait... Avec tous les comédiens, en fait, il les réunissait.
Voilà, et qu'ils continuaient à jouer leur rôle, finalement, ils étaient toujours un peu dans le film, quoi.
C'est ça. Et il avait, avec sa troupe de comédiens, avec la troupe de comédiens du Parrain, il a vraiment essayé de recréer ce côté famille, à organiser des repas les week-ends, etc.
Famille thème central à la fois pour le film et pour le réalisateur, ce qui fait que ça devient personnel.
Et justement, je vous invite à regarder, chers auditeurs, le documentaire, le making of, qu'on peut retrouver dans des boîtiers, DVD, etc. Un superbe documentaire qui montre beaucoup d'images justement de tout le casting réuni faisant des repas de famille. C'est absolument passionnant.
Ouais, et justement, dans le parallèle entre Matt Pokora, on parlait de Matt Pokora,
c'est ça.
Entre Coppola et Michael Corleone, c'est marrant que dans le troisième parrain on a le premier qui nous raconte l'histoire de la famille, la fin de Vito Corleone et l'ascension de Michael Corleone. Ça aussi, on peut développer par rapport au fait que Michael Corleone était à la base celui qui était peut-être le plus brillant, le plus intelligent de la famille, mais celui qui ne voulait plus faire partie de la famille, la famille business, pas famille, et que c'est finalement lui qui va se retrouver
à la diriger,
ouais, qui va se retrouver le nouveau parrain, ouais.
Héritier du don, quoi, du statut de don, quoi.
Vous pouvez développer ça un peu.
Vas-y, je te laisse.
Ah, vas-y, Nag, exprime-toi.
Vas-y, t'as l'air de vouloir dire un truc. Non, non, j'ai rien à dire, moi, là-dessus.
Moi, je, voilà. Hein.
Bon, bah,
là-dedans, j'ai regardé les chers auditeurs quand on se farcit les trois par. Bon, bah, je vais mettre un morceau. Hein. Quand on se farcit les trois par un en 3-4 jours, on a un peu les idées floues. Hein, parce qu'il se passe énormément de choses, il y a énormément de thèmes.
C'est extrêmement riche.
Ouais, c'est extrêmement riche. Je vous invite à redécouvrir. Hein. Franchement, c'est très fort. Et parmi les thèmes, donc, on parle de la. Oui, vas-y, tu.
Non, mais c'était par rapport, tu parlais de l'évolution de Michael Corleone. Au cours des trois films, on va revenir en détail, mais c'est l'ascension, c'est la prise. Dans le premier film, c'est l'ancienne école, l'ancienne génération, c'est Vito Corleone qui est à la tête de la famille. On découvre comment Michael va monter à la tête de cette famille, va prendre cette responsabilité.
Alors qu'il ne le veut pas au début.
Alors qu'il ne le veut pas.
Qu'est-ce qu'il va faire qui va basculer et qui va devenir le nouveau parrain?
Bah
un événement et
un
puis
mauvais choix.
C'est une musique qui le fait basculer.
C'est un mauvais choix. Non, ce qui fait vraiment basculer Michael, c'est un événement. Son père vient de. Il y a l'attentat contre son père dans le premier film, et Michael va prendre sur lui d'assassiner.
Les responsables.
Bah, les responsables. Don Tattaglia, chef d'une des autres familles mafieuses de New York. Don Tattaglia et le capitaine McCluskey. Voilà, qui est une espèce de flic
pourri, à la solde des Tattaglia.
Et tout va partir de là, en fait. C'est-à-dire que le destin de Michael, c'était d'entrer dans la politique. C'était le destin qu'avait prévu Vito Corleone pour lui. C'était d'en faire un politicien travaillant pour la famille, mais dans la légalité. Ouais. Et c'est Michael lui-même qui tombe dans l'illégalité le jour où il décide de faire cet attentat-là.
De venger l'attentat qu'il y a eu contre son père.
Ouais, de venger son père, à la surprise
de tout le monde dans sa famille, dans cette famille, de dire je vais m'en occuper, je vais le faire et tout. Et puis personne n'y croit, du genre pourquoi lui alors qu'il y a son frère Sonny, par exemple.
Mais sa famille est en danger, c'est ce que je disais. Hein. Michael Corleone protège sa famille autant que Vito protège sa famille. Le problème de Michael Corleone, c'est de protéger sa famille. De l'avoir fait beaucoup trop avec la raison et pas assez avec le cœur comme le faisait Vito avant lui.
Bah, il y a peut-être, je pense que le premier événement, puisque donc on parlait du flic corrompu, là, qui, en fait, son père est à l'hôpital. On sait qu'il risque de se faire flinguer parce que l'attentat a été raté et lui, il va simplement protéger son père à l'hôpital. C'est pas un engagement qui va au-delà de ça. Il va juste protéger son père et il se retrouve face au flic qui lui met une baigne, je crois.
Ouais.
Et je pense que déjà là, c'est une première étape qui fait que ça devient une affaire personnelle pour lui. Ça le ramène un peu à la famille, puisque en protégeant son père, en protégeant sa famille, voilà, il s'en prend une, donc ça l'énerve.
Dans cette scène, quand justement McCluskey intervient et que Michael Corleone lui dit mais il y a aucune protection machin et tout, et que McCluskey va pour lui mettre une beigne, t'as un des agents de McCluskey qui est à côté et qui lui dit laissez-le tranquille, c'est un héros de la guerre, il est clean.
Ouais.
En gros, et injustement il se prend cette beigne et ça peut alimenter encore sa haine, son sentiment de voilà, de toute façon je suis de l'autre côté et pour eux je suis ça.
Je pense que là c'est peut-être justement juste une des seules fois où il le fait à l'émotion, c'est-à-dire enfin avec le cœur, en tout cas c'est à l'émotion, il s'en prend une, ça l'énerve et à partir de là il ira plus à l'intellect.
Pas seulement dans le 2, s'il commence dans le 2 la guerre qui commence aussi, parce que chacun des trois parrains se passe à un moment, à des moments de tension entre les familles mafieuses, etc. Il se passe dans des périodes de guerre mafieuse, hein, réellement on est autour de ça à chaque fois. Dans le 2 ça démarre à cause de l'attentat dans la maison du Nevada, l'attentat qui déglingue des mecs qui viennent tirer à la mitraillette par les fenêtres, et c'est dans le 2 c'est ça qui déclenche la guerre réellement, et qui ça provoque aussi une impulsivité de la part de Michael.
Et c'est encore la protection de la famille, parce que
la protection de la famille. Il a peur.
Il le dit bien. Il est énervé. Et quand il le dit, je sais plus si c'est à Tom Hagen, qui est un des personnages très importants des deux premiers parrains, où il lui dit, ils sont venus sous mon toit, là où ma femme dort, là où mes enfants jouent. Et c'est ça qui lui paraît intolérable. Encore, ils auraient essayé de le fusiller. en sortant d'une église, hein, parce que c'est récurrent dans les parrains, ouais. Il y a toujours des cérémonies.
Beaucoup de cérémonies religieuses.
Voilà, mais c'est le fait qu'on l'agresse chez lui, et c'est pas tant lui, mais c'est sa femme et ses enfants, c'est ça qui le met le plus en rogne. Et,
Encore une fois, justement, il y a une espèce d'intrusion du business dans la famille.
Voilà,
c'est ça qui l'énerve, c'est que il faut laisser au business, à la famille business, de ce côté-là, il faut pas franchir la limite.
Ils essaient toujours de séparer les deux.
Ouais, voilà.
Les deux familles.
Et là, la limite est franchie, et c'est ça qui l'énerve profondément, quoi. C'est que, on touche à la famille, quoi.
Du coup, pour revenir à ce thème de la famille, on avait pris des notes, Tobia.
Ah oui, elles étaient très succinctes. Hein.
Il y a quatre mots dedans.
Par contre, la pizza était très bonne. par rapport à la famille, ouais, bah il y a la notion de fratrie qui est très importante, et notamment du rapport qu'il a avec son frère. J'espère que les auditeurs connaissent bien la trilogie du parrain, parce qu'on
rentre pas
dans tous les détails, on fait une analyse.
Franchement, on vous spoil allègrement en rentrant dans l'analyse, mais bon, en même temps, si vous les avez pas vus, c'est de votre faute, quoi. Je veux dire, 72, 74, les becs, faut se réveiller.
Vous avez le temps de le voir, quand même. Hein. Sinon, faut faire des efforts, tu peux parler. T'as vu le 3, toi, hier?
J'ai pas vu le 3.
Bon, ok, tu sors.
Ouais, j'étais viré.
Donc, si vous vous faites spoiler, vous serez pas les seuls, il y a aussi moi, quoi.
Non, alors, on va essayer de.
Non, mais sur
les pistes sans spoiler, voilà.
Non, bah, on s'en fout de spoiler.
Bah, si, on spoil, vas-y.
Ah,
on spoil.
Non, mais sur cette histoire de fratrie, parce que c'est terriblement shakespearien, le parrain. Histoire de famille, des histoires.
Ça a pas changé depuis des siècles et des siècles.
Histoires de trahison.
Même quand tu prends la Bible, c'est très shakespearien. Hein.
Oui,
trahir sa belle et Cain, machin et tout.
La Bible a tout pompé à Shakespeare, c'est terrible.
C'est dingue, hein. Ouais.
Quel moment fort.
J'ai toujours su que Shakespeare était Dieu. Bref, revenons sur le sujet.
Ouais, sur la fratrie, ouais.
Non, mais oui, ces fameuses trahisons, la question de la transmission est très importante dans cette famille.
C'est la première question, puisqu'il y a donc un père qui est le don de la famille, Vito, et il y a quatre fils. Hein. Quatre fils, dont un qui n'est pas biologique, mais c'est.
Ils sont cinq enfants. Il y a Connie aussi, voilà. La fille. Trois fils légitimes
donc,
et un fils Sony, adoptif.
Michael et Fredo.
Et un fils adoptif, mais qui est parfaitement.
Et tous avec des caractères.
Parfaitement intégré, qui a fait des études de droit, et Tom Hagen est
le consigliere de la famille.
Le consigliere.
Et ensuite l'avocat carrément de...
voilà
il le dit
ça,
il le
ça
dit,
c'est
le
Michael
dit dans
qui...
le 1 je suis avocat, je n'ai qu'un seul client,
c'est ça,
voilà, c'est l'avocat de la famille Corleone.
Oui, mais après, même Michael le passe du statut de consigliere, je crois c'est dans le 2, au statut d'avocat, c'est-à-dire il réforme
après
aussi
la fusillade, ouais.
c'est le business, c'est la famille business que Michael a l'intelligence de réformer aussi, c'est-à-dire qu'on est sur plusieurs époques, cette saga s'étend sur le 20e siècle. Et on a une vraie évolution aussi de la manière de gérer les affaires de la mafia. Et Michael va s'employer à la réformer et à essayer de rendre légales toutes ces affaires. Ça, c'est très très fort, c'est très important, jusque dans le 3 où il y arrive quasiment, quoi. C'est-à-dire que c'est l'œuvre de sa vie. Il a fait cette erreur au début de tomber dans l'illégalité en commettant ce premier meurtre. Dont il n'arrivera pas à se sortir, il sera toujours considéré comme le chef d'une famille mafieuse. Cette espèce de rédemption, ce pardon qui va essayer de retrouver toute sa vie, quoi.
Et quand on préparait l'émission, Nag, t'as mis en avant une notion qui était assez intéressante, je trouve, c'est que Vito Corleone, donc le parrain, enfin l'initiateur de cette famille et tout, avait des valeurs traditionnelles. Alors que Michael incarne, tu as employé cette expression-là, une sorte de libéralisme ou néolibéralisme.
Ouais, enfin, on pouvait faire un parallèle qui est pas trop abusé, c'est pas une hypothèse trop farfelue, je pense. Oui, en tout cas, sur le caractère du père et du fils, enfin, le père, il se montre, après, on peut juger que c'est du bidon ou pas, mais dans le langage, dans ses manières, dans la façon dont il procède pour échanger, il ramène toujours à l'amitié, quelque chose d'amitié. Il montre une certaine forme de morale, même si on parle quand même d'activité criminelle, ou au moins pour une certaine catégorie. C'est-à-dire que il montre qu'il veut protéger sa communauté, donc italo-américaine, mais peut-être aussi les gens de son quartier qui connaît, enfin, son entourage proche.
Ou les plus démunis, parce que il faut rappeler que au début du 2, on découvre en fait l'origine. D'où vient Vito Corleone, qui s'appelle Vito Andolini à la base, et son père et sa mère sont assassinés sous ses yeux par un espèce de parrain local à Corleone, en Sicile. Et c'est là que Vito s'enfuit, atterrit en Amérique, adopte le nom, bon, on va pas rentrer dans le détail de la scène et tout, mais du coup se fait appeler Vito Corleone, et peut-être qu'il a gardé ce côté très, enfin il en a chié quoi, hein, il vient pas d'une famille aisée ou d'un...
Il s'est retrouvé tout seul en Amérique.
Et dans le film on le voit...
Il a eu le parcours d'un migrant qui est arrivé, qui se retrouve à New York, qui passe par Ellis Island en quarantaine pendant plusieurs mois, et voilà, le parcours du migrant et de... Voilà cette espèce de rêve américain de pouvoir arriver sans rien et d'essayer, et ça raconte ça aussi hein, c'est la saga de Parrain, c'est la construction d'un empire financier qui démarre avec l'arrivée de Vito jeune et qui passe par les galères des migrants
mais là où Vito commence à commettre des petits larcins, c'est la raison essentielle, c'est pour sa femme et ses enfants.
Ouais, il est déjà, voilà, effectivement, il est déjà marié, il a déjà des enfants quand il commet ses premiers larcins.
Voilà, il découvre cet univers via deux amis à lui et il forme un petit gang à trois et il commence à faire des petits coups comme ci, comme ça, pas méchants. Et du coup, il tombe sur l'espèce de parrain local qui s'appelle Fanucci.
De Little Italy à New York.
Ouais. De Little Italy à New York et le Fanucci commence à lui dire, il y a une fameuse scène où il le chope et il lui dit, tu fais des petits coups à droite à gauche, j'ai appris que vous avez chopé 600 dollars, ici c'est mon territoire, je veux 200 dollars sur ce que vous avez chopé. Si vous êtes un peu en difficulté, je veux bien 100 dollars. Et là, il y a cette scène mythique où Vito, donc De Niro, dit à ses deux amis, je m'en occupe, il n'y a pas de problème, t'inquiète, je vais lui faire une proposition. Donc les deux autres lui disent non,
mais très succinctement, enfin il explique pas son plan, les deux autres comprennent pas, d'ailleurs ils sont pas
il
trop convaincus.
Il explique rien du tout, il dit juste
laissez-moi faire. Je vais lui faire une offre qu'on peut pas refuser.
Il y a une scène une fois de plus où ils sont à table, ils sont en train de dîner. Ça c'est récurrent aussi dans le Parrain, c'est très important hein, ces réunions de table.
Ils sont toujours très souvent
avoir des discussions en table, en banquet, en fête, en... C'est quoi ce bruit?
Il y a une perceuse dans l'immeuble d'à côté.
C'est pour ça, j'entends une perceuse dans le casque. Et il dit aux deux autres, et puis les deux autres lui disent non, mais Fanucci, il est en place, on peut pas toucher, tu te rends pas compte. Laissez-moi faire, il est sûr de son coup, il va le voir, il lui donne 100 dollars, alors qu'il devait lui filer je sais plus combien, et il lui dit, je suis un petit peu à court en ce moment, je peux pas plus, et le Fanucci lui fait, ah, toi t'as du cran, je vais te trouver du bon boulot. Et direct après, il le tue. Et il prend sa place.
Dans une scène superbe d'ailleurs, la procession à Little Italy, ouais. Ces espèces de plans séquences sur les toits, Robert De Niro dans le rôle du jeune Vito qui...
Il y a souvent dans le Parrain, plan, soit dans le 1, le 2 ou le 3, ça aussi c'est un truc qu'on pourrait un petit peu aborder, on a le temps, ça va, ce parallèle entre des scènes de violence comme ça et un côté très religieux.
Ouais,
parce que cette procession, c'est une procession religieuse en fait. Hein, on nous dit pas exactement quelle fête c'est ou quoi, mais bon, il y a les mecs qui se baladent avec
une Vierge Marie,
qui tient l'enfant Jésus,
une procession dans la rue.
Dans le premier, on a la fameuse scène du baptême.
Le baptême à la fin du premier film, pendant lequel il y a tous les meurtres, tout le carnage de faim, le meurtre des chefs des cinq familles, de tous les opposants à la famille Corleone. Qui sont tués en parallèle du baptême.
Oui, j'ai récupéré la musique.
Qu'est-ce que c'est que ça?
De la même manière.
C'est la musique qu'il y a pendant la scène du baptême.
Ah oui.
Mais chacun des trois films se termine par une série de meurtres de cette manière-là. Et à chaque fois,
toujours
effectivement,
mis en parallèle avec un acte très religieux. Quoi, ouais.
C'est ça. Dans le 3, c'est l'opéra.
Mais l'opéra en question traite de religion.
Exactement.
Et on a toute une scène où on voit des crucifix et pareil, une procession.
Voilà. Et en montage parallèle de cet opéra qu'on a toute la succession d'assassinats.
Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut en penser justement de ce parallèle?
Bah justement, c'est une question qui te taraude, toi.
Moi, ça me taraude. Ouais,
le fait que ces mecs soient des mafieux.
Pour moi, c'est en lien avec le thème de la rédemption. Hein.
Ouais, mais pas dans le premier et le deuxième, quoi. Enfin, on n'est pas.
Ah bah si, déjà. La rédemption, c'est le thème principal du troisième film, la rédemption de Michael. Mais elle est déjà en toile de fond dès le départ. C'est-à-dire que. C'est cette ambiguïté entre ces mecs qui sont d'une culture catholique religieuse et les activités
très attachées à ça,
les activités criminelles
auxquelles ils se livrent, ouais.
Je pense
à la fin du premier, enfin j'ai un peu du mal avec pour dire que c'est par rapport à la rédemption, parce qu'à la fin du premier c'est comme ça que en fait Michael va définitivement reprendre la main de la famille et réasseoir l'empire Corleone.
Bah c'est le baptême, c'est le baptême du fils de Connie, je crois.
Voilà, ouais.
En fait c'est là que Michael obtient le titre religieux du parrain. C'est-à-dire que c'est ça, pour être le parrain, d'une famille, il faut déjà être le parrain d'un enfant des points de vue religieux. Donc en fait, avant de pouvoir prendre le pouvoir réel, il devient parrain dans la famille, il devient parrain
de son
neveu.
Ouais, ouais.
Et c'est pendant cette cérémonie-là qu'il obtient le titre de parrain. Et ensuite seulement, ce sera quelques jours après que
Don Vito lui passe
le pouvoir.
Dans cette même scène, il se débarrasse de tous ceux qui sont gênants.
C'est ça.
Et là, il y a vraiment un parallèle. Il n'y a pas que un parallèle, en fait.
C'est son premier acte de chef de famille,
business. Une espèce de...
C'est de faire le ménage et de se débarrasser des opposants.
J'y voyais comme une espèce de, comment dire, corruption, et cette fois corruption de sa propre personne, puisqu'on montre bien dès le début, donc il a conscience de ce qu'est sa famille. Il dit à sa femme, ouais, mon père, comment il fait ses affaires? Bah, il fait tuer des mecs, sa femme hallucine, et il dit, mais c'est pas moi, c'est ma famille. Donc il veut montrer clairement, il veut pas faire partie de ça.
Il se rend compte qu'en fait, enfin, on se rend compte que tout est basé sur le mensonge quelque part.
Enfin, à ce moment-là, non. Enfin, il montre que la famille doit mentir et que lui, il veut pas être là-dedans, en fait. Justement, il veut rester honnête tout le long du film. Donc voilà, il y a cette progression. Il commence petit à petit à prendre les affaires, à défendre son père, tout ça. Il commence à devenir le préféré de son père, donc à devenir le possible héritier et accéder au statut de Don. Et c'est effectivement pendant cette cérémonie et pendant les meurtres qu'il accède. C'est acté, quoi, en fait. Quelque part, ça acte. Et puis il y a effectivement un côté sacré, comme tu l'expliques, puisqu'il faut devenir parrain. Mais du coup, je trouve qu'il corrompt sa propre personne qui voulait rester clean, qui voulait pas faire partie des affaires.
Bien sûr qu'il se corrompt.
À aucun moment on voit Vito Corleone mentir. Vito Corleone n'est pas un menteur.
Peut-être, ouais. Il tourne
les phrases, c'est plutôt le langage qu'on utilise pour... On nuance, on essaye de...
Mais il n'y a pas vraiment une scène, par exemple,
non, on le voit pas clairement
parrain, ou même dans le deuxième parrain, où on a Vito, donc incarné par Brando dans le premier et par De Niro dans le deuxième, il n'y a pas vraiment une scène où on voit mentir à qui que ce soit.
Ouais,
finalement.
Mais en même temps, la trilogie parle du personnage de Michael. C'est toute la vie de Michael Corleone. Pour moi, le personnage de Vito, Marlon Brando, n'est qu'une figure mythologique dans cette histoire.
Ouais, mais c'est-à-dire qu'on
l'idéalise aussi. Vito est idéalisé dans la saga. Il est idéalisé comme étant le maître absolu dans le premier film et on le découvre. Voilà, on découvre un peu sa jeunesse dans le deux.
Mais comme quelqu'un de bon finalement.
Mais c'est voilà.
Ça reste un meurtrier.
Non, pour moi, il est idéalisé dans la trilogie. De manière à avoir, c'est la figure paternelle de Michael, mais le vrai sujet de la trilogie, c'est l'ascension et la mort de Michael Corleone.
Oui, clairement. Ouais.
C'est sa montée, sa solitude. On n'en a pas encore parlé d'ailleurs du thème de la solitude.
Non, t'inquiète.
Qui est pourtant le thème principal du deuxième film.
Alors on va pouvoir l'aborder. Je vais faire un petit intermède musical.
Allez.
Toujours en lien avec le thème, hein, tout simplement dans le premier parrain, on a un personnage qui s'appelle Johnny Fontane.
Ah oui.
Qui s'appelle Johnny Fontane et qui est chanteur et qui cherche à obtenir un rôle dans une production hollywoodienne.
Qu'on peut mettre en parallèle avec Al Pacino dont les producteurs ne voulaient pas. Ça se met complètement en parallèle. Et c'est parce que Johnny Fontaine veut ce rôle qu'il y aura la fameuse scène de la tête de cheval qui est
parce que le fameux producteur qui ne veut pas de lui va recevoir une offre qu'il ne pourrait pas refuser,
qu'il refuse pourtant, et il la refuse
en se disant
il se retrouve avec son cheval dans son lit,
voilà, et c'est un fan d'équitation, c'est un fan de chevaux, il a un cheval qui montre et tout, et puis il annonce à Tom Hagen, donc l'avocat, le consigliere de Vito, dit il est hors de question que je le fasse rentrer dans mon film et tout. Et là, Tom Hagen, il lui répond direct. Ramenez-moi direct à l'aéroport. Monsieur Vito Corleone aime bien être averti immédiatement d'une mauvaise nouvelle. Et le lendemain, le type se réveille avec la tête de son cheval favori dans son lit, quoi.
Pour l'anecdote, il s'agit d'une vraie tête de cheval, ouais.
Ils ont vraiment utilisé. Et donc, ce personnage, dans le film, il chante une chanson pendant le mariage de Connie. Mm. Et on va vous la passer. Et on parlera de la bande son aussi après.
Johnny Fontaine qui est inspiré de Frank Sinatra. Ouais. Qu'on a soupçonné longtemps d'avoir des liens avec la mafia, etc.
Plus que soupçonné.
Oui, hein. Voilà.
C'était évident avec Sabine Evisinor, Dean Martin. On sait très bien.
Tu savais que Frank Sinatra a demandé à jouer le rôle de Johnny Fontaine?
Je savais pas du tout.
C'est Coppola qui a dit non. Ça fait trop. Ça serait trop much. Vrai. Mais Frank Sinatra voulait jouer le rôle de Johnny Fontaine. Ouais.
Ah dis donc, il était vraiment à fond le gars. Allez, on vous laisse avec Johnny Fontane.
this heart I bring you. I have but one heart to share with you. I have but one dream that I can cling to. You are the one dream I pray comes true. My darling, until I saw you, I never felt this way. And nobody else before you ever has heard me say, you are my one love. My life I live for you. I have but one heart to give to you. Vicino ma facciamo amore, ancora ancora per trespassare su mare nare e tenerezza. Ma pallarezza stunga morì. My darling, until I saw you, I never felt this way. And nobody else before you ever has heard me say, you are my one love. My life I live for you. I have but one heart to give to you.
Vous êtes toujours sur le 102.2 et chaque glutamate, une émission très sérieuse aujourd'hui. Nous parlons de sujet grave, le parrain.
Avec, on va parler de solitude.
On va parler de solitude. Mais il y a un thème que tu voulais développer avant qu'on parle de ça.
Oui, ou on peut en parler après, sinon on attaque la solitude, on le fera après.
Non. Non, mais vas-y, t'es sûr, t'as lancé, t'as râlé, alors maintenant t'assumes. Hein.
Ouais, je reprends donc l'espèce de...
Non, mais je trouvais ça intéressant ce que t'avais dit pendant qu'on préparait l'émission, que Corleone, enfin Michael Corleone, donc le fils de Vito, incarnait un certain libéralisme et donc le lien avec la politique.
Oui, je parlais tout à l'heure de la différence de caractère, donc on voit que Vito se montre comme quelqu'un ayant des valeurs morales. Voilà, je disais, même si c'est un criminel, il y a une certaine importance, lui, pour l'amitié. Alors, une conception.
Pour la tradition.
Voilà, une conception assez particulière d'amitié, qui peut être assez étrange. Mais, et puis on le voit surtout dans la réunion des familles après le meurtre de son fils, où il dit qu'il veut pas se venger et il dit, je veux pas qu'on s'attaque à la drogue, puisqu'il dit, bon, on a les putes, les jeux, ça va, c'est pas violent, tu vois. Mais il dit la drogue, non, c'est, on passe à autre chose. Et toutes les autres familles ici, elles disent il y a du business à faire. Et lui, il dit non, mais enfin pour lui, c'est pas l'argent, c'est pas le business qui compte en premier. C'est il faut faire des choses, les choses prudemment. Donc on a quelqu'un qui est assez prudent et on voit son fils qui à un moment explique à Kay, à sa femme, il dit que mais toutes les affaires de mon père, dans 5 ans, ça deviendra légal. En gros, ça sera plus de la criminalité. Et pour dire, il faut justement aller plus loin, il faut continuer à faire du fric, il faut aller vers la drogue. Et donc, c'est là où on peut faire une sorte de parallèle avec l'évolution du capitalisme au XXe siècle, qui s'est libéralisé petit à petit, où justement, la raison de faire du fric prévaut sur n'importe quelle autre raison, sur l'humain, sur tout ce qu'on veut. Et ça va se confirmer après dans le deuxième, dans son voyage à Cuba, où on voit donc il y a une réunion de d'hommes d'affaires, enfin ils sont présentés comme des hommes d'affaires, et dont Corleone, qui est dans la mafia, mais on le présente, je sais plus quel poste on lui dit, mais on le présente comme un industriel tout à fait respectable.
Oui, comme tous les autres, hein, qui sont tous des mafieux.
Voilà, et en fait, ils ont tous des activités criminelles derrière. Et ça montre cette espèce. Et puis il y a des liens ensuite avec les politiciens, des sénateurs, tout ça. On voit. Il montre. Je pense que Coppola, je trouve, c'est le moment vraiment le plus politique de son film où il montre qu'il y a une proximité entre ces gens-là et que les affaires, la mafia, finalement, en fait, on ne sait pas trop faire la différence.
D'ailleurs, au début du 2, il a une entrevue avec, je sais plus comment s'appelle le perso, là. Comme je vous dis, j'ai bouffé les trois en quelques jours. Qui lui parle très durement. Au tout début du 2, hein, scène d'ouverture et tout, il est dans son bureau, il reçoit... Il reçoit un espèce de politicien qui lui dit vous êtes un hypocrite comme moi Michael Corleone, Al Pacino lui répond oui mais nous avons tous les deux la même hypocrisie mais pas pour les mêmes raisons.
C'est le même monde quoi. Il y en a un qui se dit honnête et l'autre qui
et dans le 3 le parallèle sera fait toujours avec le milieu politique mais en plus avec le milieu du Vatican qui est aussi pourri et corrompu que le reste finalement.
Ouais, complètement.
Que ce soit la mafia, le milieu politique ou l'église.
Et sur cette explication, donc là, donc il y a un parallèle avec l'évolution de la société, enfin l'évolution économique qui prend le dessus avec le libéralisme. Et je pense qu'il y a un point de vue qui me paraît, moi je pense plus personnel, donc là ce serait le point de vue de Coppola. Dans le 2, ils vont annoncer le divorce avec sa femme, enfin annoncer, sa femme lui annonce qu'elle veut le quitter. Donc lui, il le prend très mal, et puis c'est surtout le problème de ses enfants, et donc ça monte, et elle lui dit « Mais le problème que tu as, c'est ce sang sicilien qui coule dans tes veines, cette culture qui fait que... »
Depuis 2000 ans, elle lui dit même.
Oui, depuis 2000 ans, enfin, c'est une espèce de destinée implacable, et elle dit « J'ai avorté ton dernier fils parce que cela doit cesser, comme si elle parlait d'une malédiction, il faut que cette tradition sicilienne qui prend une place énorme dans leur vie, et aussi du coup dans la société, enfin... » La mafia, contamine toute la société, corrompt toute la société. Elle dit, ça doit cesser, quoi. C'est un peu la voix de la raison. J'ai l'impression que Coppola lui donne un peu raison.
Je pense pas qu'elle veuille que ça cesse. Elle veut en sortir.
Elle dit, il faut que ça cesse. Elle veut en sortir. Elle dit, il faut cesser ça.
Et justement, dans le 3, t'as une fameuse scène où tu retrouves Vito Corleone et Kay Adams qui sont un peu en mode. Il y a un petit moment tendre entre eux où il s'avoue, où elle lui dit je t'aime, je t'ai toujours aimé. Il y a eu des moments durs dans les autres, enfin dans la saga où elle lui dit j'ai aimé ce que tu étais, mais pas ce que t'es devenu en gros. Elle a aimé le Michael qui justement s'était détaché de sa famille, qui s'était engagé, qui était parti dans une autre direction et tout. Et finalement elle l'a vu re-rentrer là-dedans. Justement, ce qu'elle lui reproche, voilà, tout ce côté sicilien qui est en toi depuis machin, le lien du sang, le machin, la famille business. Et à un moment donné, très tendre dans le 3, où elle lui dit, je t'ai toujours aimé, en fait, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et Michael Corleone, il lui dit, la même chose. Et bim, à ce moment-là, il apprend que quelqu'un vient le chercher, tac, un tel est mort. Ah, il commence à donner des instructions. Et y a un plan où on la voit, puis elle fait, ça s'arrêtera jamais, quoi.
C'est le business qui reprend le dessus. Ouais.
Voilà, toujours. Ouais. Il est pris là-dedans, et c'est tout le sujet du 3, hein, justement, la rédemption. Mmh. Il essaye d'en sortir, et il le dit même, hein, je suis toujours rattrapé par mon passé, quoi.
Ouais.
Il sait qu'il a fait de la merde.
They pull me out!
Avec le geste.
Voilà, c'est génial cette réplique.
Et pour finir sur mon propos,
il s'énerve un peu en le disant, c'est ça qui est trippant, tu sais. Juste en mode dépité, quoi. Il le dit en mode.
Non, mais le thème de ce fameux thème de la rédemption du 3 est absolument fabuleux. Où il essaye réellement de légaliser tout ça. À la fin, c'est-à-dire que, enfin, j'ai pas envie de spoiler la toute fin, mais
on va pas raconter la fin.
Terrible cette fin.
On va pas raconter la fin.
Alors que tout le film,
elle est dramatique.
Dans le 3, tout le film, il réussit à reconquérir des choses qu'il a perdues. Il reconquiert, il se rapproche de ses enfants. Enfin, toutes les choses qu'il avait perdues. On n'a pas eu le temps trop d'en parler, de la solitude dans le 2, mais voilà, le deuxième film, la conclusion du deuxième film, c'est qu'il se retrouve absolument tout seul, ce mec. C'est-à-dire qu'il a à force de s'occuper que du côté business de sa famille, il s'est pas occupé de sa vraie famille. Et il se retrouve absolument complètement isolé, complètement seul à la fin du deuxième film. Et le troisième, c'est vraiment cette reconquête. Le troisième, c'est, il va essayer de retrouver ses enfants, il va essayer de reconquérir sa femme. Et tout s'effondre dans la dernière scène, qui est absolument dramatique.
On racontera pas, on va pas spoiler.
La toute fin, ok, ça me va. Mais voilà, il y a cet aspect. C'est ce que je racontais, c'est-à-dire qu'en fait, Michael, son gros problème, c'est d'avoir géré. La même manière que Vito, si on fait le parallèle avec Vito, c'est que l'un et l'autre ont toujours fait ça dans le but de protéger leur famille.
Ils le disent dans le film à un moment donné, le plus dur, ce n'est pas d'acquérir le pouvoir, c'est de le maintenir.
Aussi, mais.
Et quelque part, dans le 2, c'est ce qu'on voit, on voit Vito acquérir le pouvoir, et de façon exemplaire, et en parallèle, Michael essayer de le maintenir et ne pas y arriver finalement.
Si, d'y arriver, parce que le pouvoir, le conserve, il réussit ça, à maintenir ce pouvoir. Mais à quel prix?
Voilà,
mais c'est ça, c'est à quel prix?
C'est quoi le plus important? Sacrifier sa famille, son entourage, être froid,
Mais en même temps, la vraie volonté de Michael, c'est toujours la protection de sa famille. Et c'est là que je disais que, pour moi, la différence fondamentale entre Vito et Michael, c'est que Vito, protège sa famille avec le cœur, beaucoup plus facilement, il utilise son cœur pour protéger sa famille, là où Michael le fait avec la raison, le fait beaucoup trop avec son cerveau.
Je vais les protéger parce que ils seront à l'abri, il y aura des intérêts, je vais amasser de la thune,
je vais
entretenir une famille puissante et tout ça, et qu'il a pas ce côté humaniste.
Il n'a pas ce côté famille qu'avait Vito, de réunir ses proches, de réunir les siens autour de lui, autour de repas de famille.
Et pour Vito, à la limite, la famille, c'est même pas seulement la mafia ou sa famille, c'est aussi toute la communauté italo-américaine. Ouais.
Oui, Vito qui a perdu sa famille très jeune, qui est arrivé aux États-Unis, qui a dû se créer sa propre famille.
Ça, c'est intéressant, ça aussi.
Qui s'est créé sa propre famille. Là où Michael, on le voit aussi dans la petite scène à la fin du 2, Michael qui est quand même un peu isolé au sein de sa propre famille, c'est-à-dire que quand il annonce qu'il veut partir à l'armée, qu'il veut pas faire partie des affaires de la famille, tout le monde lui tourne un peu le dos, l'envoie un peu chier. Il y a Fredo éventuellement qui lui tend la main, Fredo qui trahira plus tard.
Dans ces trois films, franchement, chers auditeurs, je vous intéresse. Non, c'est pas fini, t'inquiète, mais. On a bientôt fini, d'ici 7 minutes. Mais on vous conseille. Enfin, vous avez bien vu toute la discussion qu'on a depuis tout à l'heure. C'est pas seulement parce qu'on est passionné de cinéma, c'est parce que c'est une saga qui est passionnante où il y a plein de connexions.
Très, très riche.
Il y a plein de connexions entre les trois films, plein de thèmes qui sont abordés, c'est pas de bêtes films. Parce que je sais que beaucoup de gens ont des clichés de ça, des gens qui n'ont pas trop vu Le Parrain ou qui l'ont vu en étant gamin. Ah, c'est un film de gangster. Machin et tout. Non, les thèmes sont vraiment très riches, très humains. On peut vraiment aussi,
Il y a une vraie évolution des caractères aussi, des personnages.
L'évolution,
Qui est passionnante. Un thème très important qu'on avait prévu d'aborder, dont on n'a pas parlé, c'est la place des femmes dans cette famille, le rôle des femmes dans la famille Corleone. Pour moi, c'était un des thèmes quand même importants que j'avais envie qu'on aborde.
On peut l'aborder tout de suite.
On a encore 5 minutes.
Oh ouais, il n'y a pas de problème, on peut l'aborder tout de suite.
C'est vrai qu'à première vue, elles ont pas l'air tellement importantes. Et puis, en fait,
quand on préparait l'émission, justement, moi, je vous avais mis ça en avant. J'avais trouvé que les femmes étaient assez absentes.
Ouais. Et moi, j'ai défendu le contraire.
Il y a énormément ce plan final du premier parrain où Kay.
Ouais, elle est mise.
La femme de Michael Corleone.
Elle est mise à l'écart.
Elle est mise à l'écart par un plan qui se traduit par une porte qui se ferme sur son visage. Et on retrouve le même plan après qu'il lui ait menti pour la première fois. Ça, on retrouve encore aussi le thème. Enfin voilà, il y a tous ces thèmes là qui sont. C'est vraiment une épopée.
Oui, ce plan aussi de la fermeture de porte se retrouve dans le 2. Mais justement, ça, je pense
que comme si elle était isolée de ce milieu. Voilà, c'est masculin. C'est et toi, la femme, tu es juste une génitrice. Enfin, tu es juste une mère ou une sœur. Et c'est souvent comme ça. Mais quand on a discuté hier soir, c'est vrai que vous m'avez mis en avant qu'elles sont quand même vachement importantes, d'une certaine manière.
Bah, très importantes.
Ouais, d'une certaine manière, forcément, les femmes sont toujours très importantes.
Non, mais chacune des femmes de la saga a un rôle très important. Dans l'ancienne génération, donc dans la génération Vito, c'est la mama. La mama, pour moi, elle a un rôle très important. Elle a un rôle de lien en fait dans cette famille. C'est elle qui réunit cette famille. C'est elle qui
c'est le socle un
c'est
peu
le socle
quoi.
C'est ouais, le ciment, c'est le pilier, quoi. C'est-à-dire qu'elle est très peu elle est un peu absente dans le premier film.
Les autres ils papillonnent à droite à gauche, ils font leurs affaires, mais si la maman elle était pas là, ils pourraient pas se permettre de se poser à table.
Elle est toujours
bouffer,
voilà, elle est
machin,
toujours un peu là au milieu.
Ils sont pas propres, ils ont pas à s'occuper de ça, la maman elle s'occupe de tout ça.
Mais elle s'occupe de tout et c'est dommage, on la voit pas assez dans le 1
dans le
et
premier, c'est complètement absente.
On la voit. Et pourtant son rôle est important parce qu'elle est là, parce que moi je refuse de croire que les femmes de la famille Corleone ne sont pas au courant de ce qui se passe. Moi, je suis persuadé que la mama, elle sait très bien tout ce qui se passe dans la famille, toutes les affaires, elle connaît tout. Et on s'en rend compte, une scène du 2 où Michael vient demander conseil à la mama. Michael vient lui demander, j'ai l'impression de perdre ma famille, etc. Elle lui dit non.
On peut jamais perdre sa famille.
On perd jamais sa famille, c'est
enfin,
pas possible.
Elle demande sur son père, est-ce qu'il a pu perdre sa famille.
Tu vois, et c'est là que t'as raison, parce que c'est vraiment, il a ce questionnement-là, c'est le seul questionnement qu'il a, c'est de se demander est-ce qu'il va perdre sa famille ou pas.
Ouais. Mais et c'est à qui va demander ça? C'est à la mère,
c'est à la maman. Ouais.
Exactement. Et pareil, le rôle de Connie, voilà, personnage qui évolue énormément, Connie Corleone, la sœur de Michael, qui est un personnage qui évolue tout au long de la saga. Elle a un petit côté un peu princesse dans le 1, c'est-à-dire que voilà, elle se marie, etc. Elle a un mari très con, violent, qui trahira aussi par la suite. Et l'évolution de Connie est absolument passionnante.
Parce arrivée dans
le troisième film.
Dans le 3, elle c'est pas qu'elle tire les ficelles, mais c'est qu'elle devient décisionnaire aussi.
Elle devient décisionnaire.
Elle prend des décisions, elle appuie le neveu de Michael.
Elle donne l'ordre, c'est elle qui donne l'ordre de tuer Joey et Zaza dans le 3. C'est elle qui donne l'ordre quand Michael est à l'hôpital, elle donne l'ordre à Andy Garcia, à Vincent,
Vincento. Elle a une espèce de parrain au féminin, vu que Michael est vieillissant et qu'il est en plein doute.
Juste, elle a trouvé sa place. Il lui a fallu une vie à Connie pour trouver sa place au sein de cette famille, pour
se positionner, ouais, par rapport.
Pour lui prendre ce pouvoir. C'est-à-dire qu'on est dans les années, le troisième se passe dans les années 70. On est en pleine période de l'arrivée du féminisme et Connie représente ça énormément. C'est-à-dire qu'elle prend elle prend sa place au sein de la famille, elle assume cette place-là que Michael ne lui refuse absolument pas. C'est-à-dire que Michael, bon, lui dira quand même, t'as déconné à donner un, plus jamais tu donnes un ordre pour faire exécuter un mec quand moi je suis dans le coltard. Il la met quand même en garde, mais au-delà de ça, elle a un rôle très important, Connie. Et on retrouve aussi le rôle des femmes, donc évidemment la fille de Michael, sa propre fille qui est à la tête de la fondation Corleone dans le 3. Et on a cette présence féminine qui peut paraître au premier abord un peu absente, un peu se révèle en fait dès qu'on fouille un petit peu. Absolument passionnant, absolument intéressant.
En fait, elles sont systématiquement mises en dehors du business à chaque fois.
Mais elles sont cruciales dans la vie personnelle des personnes.
Voilà, t'as justement la dernière scène, on lui ferme la porte au nez.
Je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas seulement dans la vie personnelle, c'est pas seulement dans la vie privée. Pour moi, elles ont un vrai rôle, même au niveau du business. Elles sont au courant. Elles l'ouvrent pas beaucoup, elles l'ouvrent pas en public, mais elles sont au courant de tout ce qui se passe.
Elles sont pas dupes. Ouais, oui, elles devinent, mais on les met pas au courant.
Je pense qu'elles sont tout à fait au courant.
Elles
rentrent pas. Elles rentrent pas dans les détails, elles ont pas besoin de savoir qui
traite avec qui
est dans le détail.
Où, justement, Connie a deviné que son mari, c'est à la fin du 1.
À la fin du 1,
qu'il a fait buter son mari, elle l'a deviné, elle veut le faire avouer, et lui, il a fait passer pour une hystérique. C'est là que sa femme doute, elle lui demande, parce que... Elle est en train de demander ce qui se passe, et c'est là qu'il lui ment. Clairement, elles sont quand même mises en dehors de cet aspect business. On veut les garder dans la famille, mais on les sort du business. Et je pense que elles comprennent que le pouvoir passe par ça. Elles comprennent cette tradition de assez machiste de
la... ça, c'est Kay, c'est la seule à refuser ce pouvoir-là, à refuser les avantages du pouvoir.
Et en fait, elle cherche à lutter. Il y a presque déjà une espèce de début de lutte féministe. Elle cherche à lutter pour garder une certaine importance, une place, à pas être complètement.
Et même Kay d'ailleurs, en étant la seule femme justement qui s'oppose à tout ça et qui s'oppose à ses avantages, c'est elle qui va amener Michael vers la rédemption, mine de rien.
Kay, qui est la femme de Michael Corleone.
C'est elle qui va provoquer ce besoin de rédemption, parce que je pense que Michael,
quelque part, c'est un des plus gros échecs de sa vie d'avoir perdu Kay.
Bien sûr.
Enfin, il l'a pas perdu parce qu'elle est toujours amoureuse de lui, mais c'est vraiment.
Oui, mais à la fin, il la perd de toute façon.
Justement. l'importance du le thème, il est à la base de la plus grosse famille mafieuse en place. Il essaye de se racheter, il essaye de machin et tout, mais on comprend bien quand on voit le 3, et puis même ce qui est fondamental pour lui, c'est pas seulement ses enfants, sa descendance, mais c'est vraiment cette femme là qu'il aimait, quoi. Et ça, pour lui, c'est un échec. Un échec.
Oui, et puis il y a eu sa première femme aussi quand il rentre en Sicile.
Polonia, voilà. Dans le premier, ouais.
Ça aussi, ça c'est un des drames de sa vie, c'est d'avoir perdu.
Un drame express, hein, pour le coup.
Ouais, mais.
Moi je trouve aussi un peu. Je trouve que c'était un petit peu, on en a parlé.
Un drame express.
C'est un petit peu à l'arrache que le type il est tant amoureux de Kay, puis dès qu'il rentre en Sicile, il rencontre une jolie fille et bim, il l'épouse.
Ouais, elle est canon quand même.
L'actrice est très belle, c'est vrai.
Mais elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue, quoi, quelque part.
Ouais, mais ça fait partie des drames, ça fait partie des drames de la vie, Michael. Ça fait partie de ces. D'ailleurs, on revient dessus, même dans le 3, je sais plus à quel moment, qu'il y a des petits flashbacks, des petits plans comme ça, et on la revoit.
Ça lui revient, il y pense, il dit elle était belle et tout, il a une nostalgie de ça.
Et il en reparle, à ses enfants.
C'est comme
ça,
si, en fait, ce personnage, il a aimé deux femmes dans sa vie, quoi.
Ouais.
Il a eu Kay et Apollonia.
Et la maman,
on le voit. La maman, bien sûr, la maman, toujours la maman.
Tu peux pas tester, quoi.
Oui, mais comme on disait, la mama, le ciment, on a oublié d'en parler, mais effectivement, c'est cette phrase du 2, on touche pas, Fredo a trahi, Michael veut...
Fredo, donc le frère de Michael, l'a trahi.
Michael veut
sans
exécuter...
Sans forcément mauvaise... en étant maladroit, on va dire.
Michael se doit d'exécuter Fredo, et Michael dit à son homme de main...
Tant que la mama, elle est vivante...
Voilà, tu...
Tu veux que tu veilles sur Michael. Il lui dit même carrément, je veux que tu le protèges, limite.
Non, c'est pas ça.
Comme ça, c'est il lui arrivera rien tant que la mère est en vie.
Ouais, c'est ça. Qu'il ne lui arrive rien
donc,
tant que la mère est en vie.
Et c'est toujours le non-dit, ce qui est génial dans.
Mais
le
c'est
côté
ça, c'est que du coup, tant que la mère est en vie, il y a cette union de la famille.
La famille est maintenue, ouais.
Et
sous-entendu non-dit, mais le non-dit à comprendre, c'est par contre quand elle est plus là,
c'est ça.
Tu sais ce que tu veux
dire. Et c'est là que Michael tombe dans la solitude la plus totale, la plus absolue, quoi. C'est-à-dire la
et
fin
où il
du,
se fait
la
un
fin
retour
du 2,
à ce qu'il était avant d'être dans la famille business, justement. Il y a ce flashback de la scène où il voulait avoir son propre avenir en dehors de la famille.
C'est ça, où il était déjà un petit peu isolé.
Et on le retrouve bien seul dans le fauteuil, quoi.
Ouais.
Ok. Voilà. Alors les mecs, si vous êtes chaud, parce qu'apparemment Jean, je confonds toujours son prénom, de l'émission Honneur du prolétariat n'est pas là. Donc si vous voulez qu'on gratte un petit peu et qu'on continue à en parler,
On peut gratter. Ouais.
Et on se met un petit morceau.
Oui,
et
c'est pas son habitude d'être en retard d'habitude.
Il est très ponctuel. Hein. D'habitude, on rend l'heure à l'antenne pile. Et sinon, c'est un scandale.
Il nous vire à coups de pied d'ailleurs la plupart du temps.
Il nous écoute pas.
Là.
Non, mais c'est curieux qu'il soit pas là. Donc peut-être qu'il fait pas l'émission. Donc bah écoutez, nous on va en profiter. Vu que on vous l'a dit, le sujet est vaste et que bon déjà ça nous embêtait un petit peu d'en parler que dans une heure. Bah, on va peut-être continuer un petit quart d'heure supplémentaire.
N'empêche que on a réussi à condenser.
On a réussi à caser tout ce qu'on voulait dire. Hein, quasiment.
On a quand même voilà. Ça n'empêche pas qu'il reste des milliers de choses à raconter sur ce film, mais...
Eh ben, on va se faire un petit quart d'heure freestyle où on va en parler, discussion ouverte. Et pour patienter,
Petite musique.
Une petite musique. Alors, j'avais prévu le coup.
Ça nous permet de structurer,
Un truc qui n'a rien à voir à une petite musique traditionnelle sicilienne.
Allez.
Voilà, un petit air sicilien typique pour rester dans le thème. Et d'ailleurs, voilà, ce qu'on disait, c'est qu'on n'a pas abordé le sujet de la musique dans le parrain. Oui. Car la musique a été composée par Nino Rota. Nino Rota, qui est un compositeur italien et qui était le compositeur attitré. Disons qu'il a composé beaucoup de musique de films pour Fellini. Et c'est lui qui a été recruté par le parrain. Et pour la petite info, il faut savoir...
Par Coppola.
Comment ?
T'as dit qu'il a été recruté par le parrain.
Ouais, mais Coppola, c'est un peu le parrain.
C'est ça. Ça marche.
Faut savoir que le premier parrain, bon, on n'a pas parlé aussi de tout ce qu'il a... Ah oui, une petite anecdote qu'il va y avoir à raconter. Par rapport au premier parrain, quand il est sorti, il a eu 3 Oscars. Mmh.
Meilleur film,
meilleur acteur pour Marlon Brando.
Et meilleur scénario.
Et meilleur scénario adapté. Mario Puzo et Coppola. 5 Golden Globes et un Grammy Award pour la bande originale du film. Ouais, c'est quand même assez rare.
Ouais.
C'est pas tout le temps qu'une bande originale de film gratte carrément un Grammy Award, quoi. Voilà. Et donc, par rapport à l'Oscar du meilleur acteur, alors là, on va retomber un peu sur ce personnage de Marlon Brando. Ce personnage, pas à l'écran, mais tout court.
Ouais, sacré.
Il a refusé son Oscar du meilleur acteur. Et de quelle manière ?
Il a envoyé. Marlon Brando a toujours défendu la cause des Indiens d'Amérique, des natifs américains, et de leur représentation dans les films notamment. Et exactement pendant la cérémonie, il a envoyé un Indien à sa place récupérer le prix. Ou
ouais, c'est ça. Il a envoyé quelqu'un de son entourage habillé comme un Indien et qui est venu revendiquer.
D'accord. Ouais.
Justement, ses points de vue. Il faut savoir que Brando, après avoir fait, c'est vraiment un personnage. C'est vraiment, on pourrait faire une émission sur lui, presque.
Oui, on y avait pensé ouais, déjà. Faire une spéciale Brando. Ouais.
Il a joué dans Les Révoltés du Bounty. Donc je sais plus en quelle année, mais 4 ans. Enfin, ce film l'a marqué et il est devenu complètement amoureux des populations de Polynésie française et de toutes les populations des îles et tout. Et il s'est acheté un atoll. Je sais pas si vous le saviez ça. Il s'est acheté un atoll dont il a été longtemps le seul occupant et le seul propriétaire.
Comme Antoine, quoi, en fait.
Et comme Antoine. Ouais. Comme quoi, Antoine est un peu le Marlon Brando français.
Ouais. Vite fait. Hein.
Vite fait. Et du coup, ouais, il a toujours été très attentif à la question des autochtones, en fait, enfin des gens qui vivent dans la nature, chez eux et tout, loin de la civilisation occidentale qui bouffe tout et tout. Il a toujours été très attentif à ça. Et quand il a été,
il s'est dit, je pourrais monter une secte.
Quand il a été d'où Apocalypse Now. Voilà. Tout est lié. J'avais trouvé une petite info marrante en fouillant un peu dans le film. Il y a dans le parrain 2 en fait, il y a cette scène finale où, enfin même dans le parrain 2, on voit la résidence de Michael Corleone qui est au bord d'un lac. Mm. Et ce lac, c'est le lac Taoué.
Au Nevada, lac Taoué, ouais.
Ouais, le lac Taoué. Et c'est pas un hasard dans le film, si c'est ce lac-là, parce qu'en fait j'avais fait un petit peu fouiller, c'est le plus grand lac alpin d'Amérique du Nord. Et il est situé entre la Californie et le Nevada, et certains jeux d'argent dans les années 50-60 étaient interdits en Californie. Et du coup tous les mecs allaient jouer dans les casinos du Nevada en passant par le lac Taoué.
Ouais.
Et donc c'est pas un hasard si la demeure de Michael Corleone, elle est au bord du lac Taoué.
Mais géographiquement, il y a une vraie logique aussi dans l'évolution de la famille Corleone. C'est-à-dire qu'au début, ils sont donc à New York. C'est tout ce qui se passe dans le premier film. C'est la maison de New York où a installé Vito son empire. Dans le 2, au début du 2, Michael décide de déménager la famille. De déménager le centre de la famille dans le Nevada, puisque ça correspond au moment où la famille Corleone investit dans les casinos et rachète des hôtels, des casinos à Las Vegas. Et c'est pour ça qu'ils vont se rapprocher de ces affaires-là, qui sont les affaires principales de la famille Corleone dans le deuxième film. Dans le troisième film commence, les premières images du troisième film, on retrouve la maison du Nevada à l'abandon.
Ouais. On retrouve exactement le même plan qu'à la fin du 2 avec les feuilles. Tu vois ce plan là?
Ouais. Et la maison est
avec le vent qui balaye des feuilles devant la maison, sauf que à la fin du 2 c'est la solitude de Michael et que au début du 3, elle est abandonnée, quoi.
Elle est abandonnée. C'est-à-dire qu'en fait, et on l'apprend dans la première demi-heure du film, c'est qu'en fait, la famille Corleone a revendu les casinos, les hôtels. Et maintenant, la famille Corleone n'est impliquée plus que dans des projets financiers. Et la famille Corleone, Michael, est retournée à New York et retournée s'installer dans le centre de New York, là où est le cœur de l'économie de l'économie financière. Donc voilà, une évolution géographique qui évolue, New York, puis le Nevada.
Il y a un gros lien quand même qui est très bien fait, très bien montré entre le 2 et le 3, même s'ils ont été réalisés à 16 ans d'écart.
C'est ça,
c'est qu'on repart, il s'est passé plein de choses évidemment, hein, mais quelque part on retrouve, c'est vraiment le lien de la série des 3, c'est Michael Corleone, quoi.
Oui, bien sûr.
Le personnage incarné par Al Pacino et cette façon qu'il a de te montrer, que Coppola... à te montrer la fin du 2 avec un plan qui va te reproduire au début du 3. Sur le même lieu, mais les choses ont changé, mais voilà, on est dans la continuité, c'est vraiment super bien foutu, quoi.
Ouais.
C'est vraiment super bien foutu. Voilà, quelque chose à rajouter.
Tu voulais pas parler un peu plus des musiques, tu voulais pas rentrer plus dans le détail, non?
Des musiques, Nino Rota, hein, j'en ai parlé.
Hein. Ah merde.
Qu'est-ce qu'on a à dire sur Nino Rota?
Une belle perche.
Les thèmes sont magnifiques. Musique aussi, certains morceaux de Carmine Coppola. Non, mais pourquoi tu me branches sur la musique là? T'essayes de me mettre mal à l'aise devant les auditeurs, c'est ça?
Exactement. de te mettre en difficulté.
Je savais que t'étais comme ça de toute façon.
Si vous voulez venir jeter des légumes, ils sortent dans pas longtemps.
Non, je voulais juste préciser que la musique avait eu un Grammy Award. Et qu'elle,
tout même, ouais.
Et qu'elle est magnifique, franchement, c'est de bout en bout pendant tout le film. Et on pourrait parler un peu, vu qu'on peut se faire plaisir, on pourrait parler un peu du temps dans ce film, ce qui est assez surprenant, parce que ça peut rebuter certaines personnes de regarder ce film qui est assez ancien.
Bah, c'est trois films de trois heures, quoi.
Qui n'a pas vieilli, qui n'a pas pris une ride, c'est ça qui est hallucinant.
Ouais.
Ça aurait pu sortir beaucoup plus récemment, bref.
C'est très classique, hein, dans la mise en scène. Coppola a fait une mise en scène très classique. C'est des plans assez longs, c'est des plans, des dialogues.
On est pas de cadre fixe, il y a pas énormément genre de travelling ou de ceci ou de cela ou de mouvement de caméra.
À part dans des scènes très particulières, les scènes de violence, les scènes d'assassinat sont toujours, il y a toujours un petit truc esthétique quand même. Il y a toujours un petit truc. On sent qu'il y a une recherche là-dessus. Chaque meurtre est identifiable. Ça c'est fascinant, hein, dans les trois films. Chacun des meurtres est identifiable par un petit truc particulier, une petite touche, une petite note, un petit truc.
Il faut pas oublier que quand le premier
ça va être la balle tirée dans l'œil à travers les lunettes. Ça va être le coup de l'ampoule.
Certaines représentations de la violence aussi, tu vois, à travers Sam Peckinpah par exemple, qui était à son qui était dans sa période. C'est un réalisateur que j'admire énormément.
Grand réalisateur de western.
Qui a fait Les Chiens de paille, qui a fait La Horde sauvage, qui a fait Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia et tout, et qui a une façon de représenter la violence. Et je pense qu'il a influencé tout. Lui et Sergio Leone.
Bien sûr.
Chacun à leur manière, mais leur façon de filmer la violence, quoi. Et le contexte dans lequel ils la mettent.
Ouais.
Et je pense que Coppola était clairement.
Chacun des meurtres a un petit truc,
c'est pour ça qu'il est marquant.
Un petit truc en
plus,
c'est ce qui fait que.
Et justement, une petite anecdote, c'est que en fait, à la base, Coppola ne voulait pas spécialement mettre de scènes de violence. Il voulait vraiment s'intéresser qu'au personnage.
Ouais.
Et que ce sont les studios.
C'est les studios
qui lui ont dit non, il nous faut des fusillades.
Il faut de l'action. Il faut
du meurtre qu'on voit. Il faut.
Comme la scène où Connie se fait battre par son mari dans le premier film. Ça, elle n'était pas prévue, celle-là. Ces pressions des studios qui voulaient un peu plus d'action. Coppola a tourné cette scène-là, ça a contenté les studios, ça a permis à Coppola de tenir une semaine de plus sur le tournage. C'est pas hors champ, non, elle se prend des coups de ceinture quand même.
Oui, par contre, les vraies baffes, après, elles sont hors champ, on entend juste le cri.
Et
hop, ça coupe, on passe au théâtre.
Mais en même temps, elle est importante, cette scène, puisque c'est la scène qui va déclencher la mort de Sonny. À l'origine, Coppola l'aurait peut-être filmé un peu moins, ça aurait été certainement un peu moins violent, à l'origine.
Pour la petite anecdote, en fait, on en parlait tout au début de l'émission, du fait que les studios ne voulaient pas de Pacino, qui était pas connu à l'époque, et que Coppola a eu un coup de foot sur lui et a dit, C'est lui. Quand ils ont commencé à tourner le film, il a commencé à tourner les scènes du mariage et tout, et les studios, les producteurs disent non, mais ça le fait pas, c'est pas lui et tout. Et donc immédiatement après, il a tourné la scène du meurtre de Mac Conkley là,
Tatalia,
et il l'a tourné en priorité dès la deuxième semaine. Pour conforter les studios et dire, eh voilà, regardez, Pacino, peut passer pour un mafieux, et même il peut passer pour un type, il est crédible, il peut tuer des gens, et les studios voulaient ça, c'est dingue. Alors
parce qu'en fait, déjà dans le premier film, il y a une vraie évolution du personnage de Michael dans le premier film, et c'est vrai que quand il en arrive à cette scène, Al Pacino fait une interprétation, fantastique, là, le moment où il revient des toilettes, il a récupéré le gun derrière les toilettes.
Le stress qu'il a dans les toilettes aussi, de pas trouver l'arme.
Il trouve pas l'arme. Il finit enfin par la trouver. Il respire un coup, il y va, on sent qu'il est ultra tendu.
Ouais.
Il s'assoit à table, il écoute Tatalia, et dans le regard là, il regarde à droite, à gauche, en bas, à droite, il remonte, il a le regard hyper nerveux qui part dans tous les sens. On sent qu'il est en train de réfléchir à 10 000 trucs en même temps,
et qu'il y a le moment où j'y vais.
C'est ça.
Et d'un coup, bim, il sort son
pingue. Il se lève et
voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais, pour la petite anecdote, que à ce moment-là, quand il est dans ce doute, on entend le tramway passer.
Ouais.
Et que ça, c'est, on entend le comme ça, et le tramway passer. Et qu'en fait, c'était une idée de l'ingénieur du son qui a suggéré à Coppola qu'à ce moment-là, c'était sa transformation, et que ce serait bien qu'on entende le tramway passer, parce que le tramway, c'est quelque chose qui va d'un endroit à un autre, et que là, Michael, il est en train d'aller d'un endroit de sa vie à un autre.
C'est excellent. Ça.
Et s'il y a ce son de tramway que vous pouvez entendre dans cette scène, ça symbolise ça. C'est-à-dire, il est parti dans un train qui l'emmène ailleurs, quoi.
Ouais.
Comme quoi, c'est juste super. Pour vous dire, chers auditeurs, là, on passe peut-être pour des cinéphiles ou des geeks, même. Mais que nous sommes, faut avouer. on choisit de faire une émission sur le parrain, donc faut être un peu geek. comme quoi le langage du cinéma est extrêmement riche, et que des fois il y a même un petit détail, un plan, une image ou un son qui est clairement voulu et qui a une signification énorme, et qui fait partie de tout un ensemble.
Mais tout est extrêmement voulu. C'est juste qu'on les repère pas tous. Et analyser un film, ça peut prendre des jours et des jours, quoi.
Ouais, voilà.
T'as plusieurs séquences qu'on se procédait, en fait. Je saurais plus te dire quand exactement, mais tu en as d'autres où t'as de l'orage, ou en tout cas de la pluie forte qui commence à se mettre. T'as aussi un autre truc. Alors là, c'est pas sonore, mais ça m'a marqué. C'est quand Roth, là, le mec, donc, qui emmène.
Imam Ross.
Iman Roth, qui l'emmène à Cuba,
qui incarne le pourri mais juif. Ouais, ça tape un peu dans tout, tu vois.
C'est le parrain de la mafia juive.
De la mafia juive, mais qui tient un peu tout, et qui veut foutre la merde, et qui veut buter Michael.
Et quand il va se faire buter, je crois que ça doit être son garde du corps. Enfin, t'as un gars qui se fait couper la gorge par derrière sur sa terrasse, et le mec, tu sais, il y a des rideaux blancs assez légers, et puis il y a un coup de vent qui passe devant lui, et c'est à ce moment-là que justement t'as le tueur qui passe en même temps que le rideau. Enfin, le rideau représente ce fond un peu au meurtrier. Le mouvement est assez beau, quoi. Le procédé est utilisé à plusieurs moments, avec de l'orage, des trucs comme ça, effectivement.
Il y a vraiment tout un c'est une série de films passionnante à fouiller au niveau du langage cinématographique. On parlait tout à l'heure de la porte qui se ferme sur la femme, et qui est la fin du premier, et on retrouve la même scène dans le 2. Quand elle vient voir ses enfants, un peu à l'insu de Michael Corleone, avec la complicité
avec la complicité de Connie, toujours Connie, hein, qui reprend le rôle de la mama au fur et à mesure de la saga.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et que Michael, pareil, lui ferme la porte, et on retrouve un peu le même plan. Et il y a tout un langage visuel dans le film. Il y a aussi ce côté, on en parlait. Ça, c'est aussi ce que j'ai vachement senti, c'est toutes les scènes qui se passent en Amérique ont une certaine couleur et un certain grain. Toutes les scènes qui se passent en Italie sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus. C'est les origines, c'est un truc un peu idéal.
La Sicile, New York, il y en a un qui est forcément.
Je pense que
c'est un peu appuyé. Non, tout à fait. Ils étaient un peu obligés, ça, pour le coup. Ça va de soi. Pour moi, ça va de soi, justement, d'appuyer cette différence entre les deux lieux.
Dans le premier parrain, quand celui qui s'occupait des lumières, justement, a choisi de prendre ses teintes très sombres et tout, parce que c'était son boulot, hein. C'était pas Coppola qui voulait spécialement ça, c'est lui qui a suggéré, j'aimerais bien que là, ce soit très sombre et tout, tu vois, comme dans la scène d'ouverture, on a déjà ce contraste entre le mariage de Connie.
Ouais, très lumineux.
Tout le monde est dehors, c'est la fête, c'est en plein air, c'est super lumineux, et puis bim.
Le bureau de Vito, ouais.
Le bureau de Vito, il auditionne les gens, il écoute. Et la première scène du film, c'est un espèce de long monologue du type qui vient lui demander conseil, enfin qui vient lui dire.
Qui vient lui demander un service.
Voilà, qui vient lui demander un service. Genre, voilà, ma fille s'est fait tabasser, machin, elle a été défigurée, je sais pas quoi, patati patata, et le plan c'est large, et tout, et tout, et tout. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote là-dessus, c'est le fait que Coppola a choisi de faire ça comme ça. Parce qu'en fait, c'est lui qui avait réalisé, enfin, le film Patton. Je sais pas si vous voyez ce film Patton, sur le général Patton.
T'attends que les auditeurs répondent ou?
Ouais, bien sûr. J'attends que le téléphone sonne là. Alors vous pouvez appeler 0478.
Allô, tu l'as vu? Ah, c'est cool.
Et le film débute par un long monologue devant un drapeau américain du général Patton qui invective les troupes, qui leur fait tout un speech et tout. Et pareil que Coppola a voulu reprendre la même idée, mais de façon complètement différente, on l'a bien vu, en faisant débuter le parrain par un monologue d'un type. Et que le champ s'élargisse et qu'on découvre ensuite Vito. C'est plein de procédés, voilà, là on est un peu rentré dans l'aspect technique.
C'est intéressant aussi, hein. Enfin, c'est passionnant.
Ouais, en se fermant, on peut faire attention.
C'est à travers l'aspect technique qu'on crée. Je veux dire, c'est de la technique, hein, le cinéma. C'est à travers la technique qu'on peut créer l'émotion derrière. Mais la saga du parrain, tu faisais le parallèle avec Patton. La saga du parrain, c'est une histoire de l'Amérique. C'est une vraie histoire de l'Amérique. Je veux dire, à travers les trois films, on traverse quasiment tout le XXe siècle. On traverse plein d'aspects de l'Amérique, des migrants au début du siècle, en passant par
tous les événements marquants sont évoqués quelque part.
Tous les grands événements de l'histoire. Michael, au début du premier film, il revient de
la Seconde Guerre mondiale.
Il était marine, s'il s'était engagé, il revient de la Seconde Guerre mondiale.
Dans le 2, on se retrouve à Cuba.
Les événements de Cuba, la révolution cubaine de Castro.
Dans le 3, on se retrouve avec la mort de Jean-Paul Ier.
Ouais. Paul VI, c'est quoi,
Paul VI avant? Il y a Paul VI qui meurt. On voit l'élection de Jean-Paul Ier et sa mort.
C'est ça.
Qui, d'après la théorie du film, aurait été exécutée par.
Empoisonné par un concurrent de Michael.
Ouais, voilà. Et donc, il est temps de rendre l'antenne maintenant. Eh bien, merci messieurs.
Oui, ça y est, notre.
Je sais pas, mais bon, va falloir qu'on rende l'antenne un jour.
Ah oui, d'accord, ok. Oui, effectivement.
Je vous jette pas dehors, mais bon, je pense qu'on a.
Eh ben, ciao.
Je voulais juste.
Vas-y, je t'en prie.
Prendre juste une seconde pour embrasser Cécile qui nous écoute depuis Istanbul, voilà.
Ok, ça marche. Un petit.
Ciao. Simplement.
Il n'y a pas d'amis, lui.
Non,
pas de meufs, pas de copains, pas de famille.
Bah, ils écoutent plus, là, depuis, genre, avait dit 18h.
Si elle écoute.
Et quand les mecs, tu leur dis, on continue l'émission, non, ils se barrent quand même.
Ouais, après ils sont.
Ils font semblant c'est de l'écouter, ça. Puis ils te font, c'est bien. Quand t'as parlé de, je sais plus, mais je faisais un truc en même temps.
Ouais, c'était vachement bien ce que tu disais.
Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour Échec et Glutamate, toujours sur le 102.2 Radio Canu. On espère que l'émission vous a intéressé, vous a plu, hein. On a balancé pas mal d'informations pêle-mêle, mais bon, c'est un peu une émission de passionné du sujet et qui était un peu dedans.
Oui, on débat en même temps qu'on vous en parle.
Voilà.
C'est intéressant.
C'est vivant.
On confronte des avis. Là, ce qu'on a fait pour une fois, comme le film était très long, c'est qu'effectivement, on a pris le temps avant d'en parler entre nous.
Ouais.
Parce que sinon, ça aurait été vraiment, vraiment le fouillis aujourd'hui si on n'était pas passé par cette étape, je pense.
Mmh, et ça aurait pu être aussi. Parce que là, on était tous d'accord, on aurait été peut-être moins d'accord.
Il y a eu des petits points de litige pendant les discussions d'hier. Hein.
Mais c'est ça qui est bien aussi. Litige. Il en faut, quoi.
Mais donc, pour la semaine prochaine, on part sur un film court, c'est ça qu'on s'est dit?
On avait dit que sur la semaine prochaine, on n'allait pas se casser la tête, on faisait un court-métrage. C'est ça?
Non, mais il faut partir sur un truc de moins d'une heure et demie pour une fois.
1h20, ça me semble. Tu sais quoi, on va prendre un vieux classique des années 80 qui dure 86 minutes, tu sais.
On fera la commune de Peter Watkins qui dure 8 heures.
Ouais. Super.
Ok, pas de problème. Bon, on espère que tout ça vous aura donné surtout envie de redécouvrir cette saga et de vous plonger dedans. Une chose à préciser, c'est un peu rebutant au début parce que chaque film est très long, ça dure près de 3 heures à chaque fois, mais une fois que vous êtes pris dedans, au bout de 10 minutes, vous ne le lâchez plus jusqu'à la fin et vous êtes déçu quand c'est fini, quoi.
Mais c'est incroyable, hein. Ça passe tout seul, hein, les 3 heures.
C'est dingue, hein. Et ça a été, le premier a été réalisé en 72, hein, de regarder le premier, j'avais peur de me faire chier. De venir 2h50, c'est des moments où je vais un peu décrocher, quoi. Hein, où il peut y avoir des longueurs. Bah non, t'es pris dedans, quoi. Et pourtant, il n'y a pas tant de scènes d'action que ça. Il y a, je sais pas, genre 3 fusillades dans le premier, sur 2h50. Mais c'est les personnages, les dialogues, comme c'est filmé, comme la musique, t'es pris dedans, quoi.
Mais pareil, le 3, donc, qui est très souvent sous-estimé, qui est pourtant, qui mérite sa place de troisième film. Pareil, je me le suis revu hier soir. C'est incroyable, tu lances le film, tu t'ennuies pas une seule seconde, quoi. T'es happé et quand le film se termine, tu te dis d'accord, ok, c'est fini déjà.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ça passe super vite. C'est vraiment un superbe exemple, hein,
ouais.
Aussi par rapport à ça, de comment on rythme un film, que ce soit aussi bien par le montage que par le.
Bah, faut accepter de se laisser embarquer quand même. Enfin, je veux dire.
Ouais, c'est vrai qu'on était assez volontaires quand même.
Ouais.
On en parle de façon peut-être pas objective. Non, mais comme tout le monde, des fois, on se fait chier devant des grands classiques ou des chefs-d'œuvre. Au bout d'un moment, on décroche un peu. Je fais attends, là, ça traîne un peu et tout. Non, là, ça file.
Ça file complètement. Un plaisir de bout en bout à revoir.
Ouais, une grande saga et avec, j'espère qu'on vous l'a fait découvrir durant cette émission, plein de thèmes qui sont abordés.
Ou en tout cas redécouvrir et vous permettre de le revoir avec peut-être un.
Plein de thèmes qui correspondent à plein des thèmes humains qui correspondent à nos préoccupations. Oh, bah non. on était bien là. Le bordel.
Ça a coupé la musique.
Tu renverses des trucs.
J'ai ma bouteille qui est tombée sur le disque. C'est fini.
Voilà. Bon, on se dit à la semaine prochaine.
Allez, ça marche.
Et on vous dit à la semaine prochaine aussi. Donc, il n'y aura pas d'honneur du prolétariat cette semaine. Vous l'aurez compris. Cette semaine, le prolétariat
n'a aucun honneur.
Voilà.
Dans l'os.
On vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée. Et merci de nous avoir suivis. Si vous l'avez fait, gros bisous.
Ciao.
Échec et glutamate. Et merci à Yuri et à Don Nagoya.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.